else but you. I wanna be loved by you alone.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adicia, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h. Alors aujourd'hui, je reçois Maxime Vivas. Bonjour Maxime Vivas.
Bonjour Claire.
Voilà, Maxime Vivas qui est écrivain et qui a écrit donc notamment, nous allons plus particulièrement parler d'un de ses livres que j'ai choisi, La Tour Eiffel et le Cocotier, mais il a écrit de nombreux autres livres dont on va parler également. Donc on va d'abord parler un petit peu de vous, Maxime, parce que vous avez un parcours un peu, voilà, donc l'écriture, vous y êtes arrivé parce que c'était votre rêve d'enfant en fait.
C'est ça, mais tout petit, dès l'âge de 10 ans, je me disais qu'un jour j'écrirais des choses, et puis la vie a fait que je n'ai jamais mis ça en route. Voilà. Et donc, un jour, déjà, l'âge ayant passé, je me suis dit que si je ne le faisais pas, ce serait trop tard.
Voilà, voilà, donc, en 97, vous avez choisi le moment, voilà, un jour vous avez choisi un moment, là c'est le moment
c'est
pour le faire.
Sinon c'est trop tard, là, en 97 j'ai écrit mon premier roman. Voilà.
D'accord. Donc vous êtes né en Aveyron.
Oui.
Voilà. Vos parents sont espagnols, comme votre prénom, votre nom, pardon, l'indique.
Hein. Ah, mes parents sont d'origine espagnole.
D'origine espagnole.
Mon père, voilà, mon père était aragonais, mais ma mère est catalane. Voilà.
D'accord. Et donc vous avez vécu après dans le Tarn.
Le Tarn-et-Garonne, près de Montauban, un petit village qui s'appelle Albias. Voilà.
D'accord. Et puis donc après vous êtes monté à Paris, comme on dit, hein, monté à Paris. Et vous avez été postier.
Voilà, je suis monté avec ma valise en carton pour, pour aller trier des lettres dans un grand centre de tri qui se trouvait dans le 14e arrondissement à Paris, qui n'existe plus aujourd'hui, ce centre de tri.
Qui vous a inspiré d'ailleurs votre premier roman.
Qui m'a inspiré mon premier roman, Paris Brûle.
Et ensuite, vous êtes redescendu donc dans la région toulousaine, enfin à Toulouse plus exactement, pour vous avez été cadre à France Télécom.
Voilà.
Voilà. Et jusqu'à il y a quelques années encore.
Oui, jusqu'à quelques années où j'ai pris en fait une pré-retraite pour me consacrer
à l'écriture entièrement.
Voilà.
Donc en fait, donc votre premier roman donc date de 1997. Vous êtes papa de trois enfants aussi,
oui.
Donc ça prend du temps aussi hein, dans une vie.
Oui, trois garçons.
Voilà.
D'ailleurs, le dernier a 12 ans, donc voilà, hein. Voilà. Les autres sont plus grands, mais celui-là, c'est le petit dernier, il a 12 ans.
Et il lit ce que vous écrivez ?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Bon, d'accord. Mais moi, ma fille a lu le livre La Tour Eiffel et le Cocotier, hein, et elle a beaucoup aimé d'ailleurs. Hein, donc elle a 13 ans, donc mais bon, les filles, c'est peut-être différent des garçons. Hein,
ouais.
Et elle lise peut-être un peu plus, hein, on va dire. Et donc, j'en étais où ? Oui, et vous faites également une chronique littéraire dans une radio également, tous les lundis. Vous animez donc une chronique littéraire à Radio Montpaïs.
Voilà, tous les lundis, de 17h30 à 18h30.
Voilà.
Publicité
donc,
gratuite.
Voilà. Vous parlez également voilà, des livres que vous aimez, que vous avez sélectionnés.
Oui, et puis de ceux que je ne lirai jamais.
Enfin, et voilà, ceux que vous... Voilà, tout à fait.
Ça est un peu caustique et impertinent.
Oui, 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 mais bon... Donc, nous allons donc revenir à votre premier roman, donc Paris Brune en 1997, qui a obtenu le prix Roger Vaillant.
Oui.
Hein, donc, premier livre est donc primé. Et donc, vous pouvez nous dire un petit peu, donc c'est un roman, et donc qui s'est inspiré donc, de votre profession, votre première profession, là, quand vous travaillez comme postier au centre de tri à Paris. Donc, vous pouvez nous retracer un petit peu l'histoire donc, de ce premier livre.
Oui. Pour mon premier roman, j'avais lu quelque part sous la plume d'un auteur qu'il ne faut écrire que sur ce qu'on connaît, qu'on a vu, qu'on a lu, qu'on a ressenti. Et donc je me suis dit que j'allais parler d'une histoire qui est en fait d'une partie de ma vie qui a été ma jeunesse à Paris. Et donc vous avez été postier, trieur de lettres, la nuit dans un grand centre de tri. Et là, il y avait à peu près 2000 jeunes provinciaux qui avaient été rassemblés et qui pensaient tous qu'ils allaient passer 2 ou 3 ans à Paris, mais qui en fait... Pour beaucoup, ce qui a été mon cas, ont passé une vingtaine d'années, et qu'ils se sont sentis pris dans une sorte de nasse comme ça. Bon, ensuite, il y avait des problèmes de logement, de cherté de la vie, d'isolement, en fait, voilà. Donc, c'était un univers masculin uniquement. En fait,
Paris, l'Eldorado, c'est pas toujours ça, quoi.
C'était
en
pas
fait,
ça. Hein. Il y avait en plus un désert affectif terrible. Donc, ces jeunes gens, là, ils étaient nombreux, trop nombreux, groupés. Ils sont très, très vite devenus à peu près ingérables. Donc, et mon livre cette histoire un peu de cette vie truculente, parfois rabelaisienne, indisciplinée, insubordonnée, gréviste de ces jeunes gens-là qui ont fait vivre des moments assez durs à leur hiérarchie. À l'époque, je ne savais pas qu'un jour, moi aussi, je ferais partie de la hiérarchie.
Donc ça, c'était votre premier roman, donc 1997, qui a été donc très apprécié puisqu'il a obtenu donc le prix Roger Vaillant. Et donc, un an après, vous avez persévéré en publiant La Bousculade, qui est un roman également.
Oui, c'est un roman qui se passe, celui-là, dans le métro.
À Paris, donc, voilà. Également.
Voilà. Ces deux premiers romans sont des romans
parisiens.
À la fois parisiens et sociaux. Ça se passe dans le monde du travail, ce qui ne se fait pas beaucoup. C'est pas très, très
oui,
dans la
c'est
mode.
Vrai, ouais,
les
oui.
critiques n'aiment pas beaucoup ça. Enfin, voilà. Donc, il se passe dans le métro. Et il s'appelle La Bousculade parce que, en fait, en février 62, à Paris, il y avait une grande manifestation qui s'était terminée par la mort de 8 manifestants dans la bouche du métro Charonne, qui avait été poussé là à coup de matraque par des corps spéciaux de la police de Maurice Papon. Et Papon avait dit que ces morts-là étaient morts d'une bousculade. Voilà, donc, ouais. Et donc, c'est par ironie amère que j'ai repris ce titre-là. Mais en fait, le thème du livre, c'est plutôt... J'aurais dû l'appeler la désobéissance. Le thème, c'est plutôt le devoir de désobéissance, parce qu'il nous est arrivé à tous dans notre vie, au moins une fois, de dire oui quand il n'est pas de dire non. Et quelquefois, le oui est coupable. Voilà, donc, encore une fois, ça a été le cas de Maurice Papon, qui a dit oui à tous les pouvoirs, à Vichy, à De Gaulle, quand à un moment donné, peut-être il fallait, au nom de l'esprit démocratique, puis le sentiment humaniste, il fallait dire non.
Voilà. Voilà. Donc, c'est deux romans un peu, donc, aspect social.
Voilà. Alors, le premier est un peu truculent et rabelaisien, il y a des passages où on peut rire. Le second est un peu moins amusant, dans la mesure où on montre comment les hommes sont quelquefois trop ligotés par cet esprit d'obéissance qu'on leur a inculqué
très jeune.
Ce qu'on
attend d'eux, et voilà.
Et d'ailleurs, je raconte dans le livre comment une expérience qui est vraie, c'est l'expérience faite par un psychologue américain qui s'appelle Stanley Milgram et qui raconte comment on peut transformer n'importe quel individu en tortionnaire.
Donc ça va loin, quoi. Si on réfléchit, quoi, je veux dire, après on peut penser à tout ce qui s'est passé, enfin tout ce qui se passe en temps de guerre, quoi, et
absolument,
comment des gens qui au départ sont sûrement comme tout le monde peuvent en arriver à devenir des monstres, quoi, finalement.
C'est exactement ça. Donc désobéissons.
D'accord. Donc ensuite, nous avons Écran total, en 1999. Donc là, vous changez de genre, c'est un polar.
Absolument, je me suis reposé de ces deux livres un peu sérieux là, pour écrire un faux polar.
Qui se passe à Toulouse,
et autour des cinémas d'art et d'essai, qui sont Utopia, Le Cratère et ABC.
Oui.
Et donc, la trame est là autour. Donc, il y a en fait une confrontation entre les individus qui veulent construire à Toulouse un méga multiplex cinématographique qui risque de couler, y compris les multiplex de Blagnac et de La Belge. Et voilà. Et puis, en même temps, une lutte pour empêcher ça. Enfin, donc, c'est un livre sur l'exception culturelle française, mais c'est encore une fois, là, un livre qui veut faire rire. D'ailleurs, moi, je rembourse tous les lecteurs qui n'auront pas ri en le lisant.
Voilà. Annonce aux lecteurs, alors.
Voilà, donc il y a des clins d'œil. Il y a un clin d'œil à Proust avec une phrase qui fait 500 et quelques mots. Avec des allusions à Molière. Des choses comme ça. Il y a des anagrammes, il y a des jeux d'écriture nombreux. Voilà, donc, il y a quand même une histoire policière, autour de...
Avec une énigme
qui est résolue vers la fin.
D'accord. Qui est résolue par l'écriture.
Ce ne sont pas des indices matériels qui vont permettre de voir, mais en fait, c'est l'énigme, si le lecteur est très, très attentif, est dans certains jeux d'écriture.
Donc, Écran total, en 1999. Alors après, il y a un petit saut, on passe à 2002, avec La Cathédrale au fond du jardin, où... Pourquoi j'ai voulu tuer Louis Ferdinand Céline ?
C'est
rigolo comme titre.
Oui, en fait, c'est
un roman.
C'est un roman, mais que j'ai bâti à partir d'une histoire vraie, pas très connue, et qui est la suivante. En 1943, sur la butte Montmartre, dans un immeuble au quatrième étage, un quatrième étage servait de planque pour la résistance, et au cinquième étage vivait Louis Ferdinand Céline, qui était donc un écrivain, collaborateur et antisémite. Et au quatrième étage, parmi les résistants, il y avait Roger Vaillant, qu'on va retrouver. Voilà. Et donc, un jour, Roger Vaillant et son équipe de résistants ont décidé de tuer Louis-Ferdinand Céline. Et ils ont, comme ça, élaboré plusieurs projets pour le tuer. Alors, tout ça est absolument vrai.
Et d'ailleurs, vous êtes appuyé sur des faits historiques,
oui, absolument,
et véridiques.
Absolument. D'ailleurs, quand Céline est rentré de son exil au Danemark, il a appris qu'en fait, il avait failli être assassiné par Roger Vaillant.
D'accord.
Et à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais appelé Vaillant que mon assassin. Mais mon assassin, oui, a eu le concours, mon assassin a publié un livre.
Et donc, ce roman, a reçu le prix du Zinc, qui est un prix sous l'égide de Régine Deforges.
Oui, c'est un livre attribué par des lecteurs dans un salon du livre, là, donc, qui se passe à Montmorillon, dans la Vienne. Voilà. Et donc, c'est ce salon Régine Deforges, qui est originaire de Montmorillon.
Voilà. D'accord, donc il a obtenu donc, le prix du Zinc. Et donc, voilà, c'est un roman historique, mais enfin, c'est pas un livre d'histoire, quoi.
C'est un roman qui pose la question de savoir s'il faut dissocier l'homme de sa fonction. Est-ce que quelqu'un, parce qu'il a du talent ou parce qu'il a du génie, peut tout faire
voilà,
Est-ce que pendant la résistance, il est plus grave de tuer un écrivain qui collabore que de tuer un maçon, un charpentier ou un paysan qui collabore aussi?
Oui,
la question est posée, je n'y réponds pas. C'est au lecteur d'y répondre.
Oui, à chacun de trouver sa réponse. Quoi. Alors après, en 2003, nous avons un roman de nouveau qui s'appelle « Comme le scorpion, mon frère ». Alors là, qui se passe à Gênes, en Italie, et qui raconte un peu le fait divers du G8 en juillet 2001.
C'est ça.
L'histoire du G8.
Oui, voilà, donc en fait, pour rappeler un petit peu, c'était 8 chefs d'État des plus grands pays du monde sont réunis à Gênes, en Italie, pour en fait prendre des décisions qui vont concerner l'ensemble du monde. Et là, vont se réunir à peu près 200 000 manifestants venus de toute l'Europe, essentiellement des jeunes d'ailleurs, moi j'aime beaucoup, parce qu'ils sont assez généreux, ils ne sont pas allés là-bas pour réclamer pour eux, ils sont allés réclamer pour le monde, pour qu'en fait la planète ne soit pas soumise à 8 chefs d'État élus dans leur pays, mais qui n'ont pas été élus par l'ensemble de la planète pour décider de son avenir.
Mm-hmm.
Et parmi ces jeunes gens-là, il va y avoir à la fois des provocateurs, puis à la fois des provocateurs des deux camps, d'ailleurs, des provocateurs qui ont été envoyés par la police, comme c'est souvent le cas.
Oui, comme malheureusement.
Et en même temps, des gens qui sont venus là pour en découdre, un peu des excités. Et donc, il va y avoir une violence terrible. Il y a 20 000 policiers qui leur font face. Une violence terrible qui va se traduire par la mort d'un jeune manifestant qui a 21 ans, je crois, Carlo Giuliani, qui va être abattu d'une balle dans la tête à bout portant par un jeune carabinier qui est plus jeune que lui et qu'on a mis là et qui a eu peur et qui a tiré. Voilà.
Ouais.
Donc, je raconte ce sommet avec beaucoup de détails. C'est un roman, parce qu'en fait, j'ai imaginé que des jeunes gens partent de Toulouse et de Paris et d'ailleurs pour se rencontrer,
pour nouer
des amitiés, même pour rencontrer l'amour. Mais en même temps,
c'est basé sur des faits, là encore, des faits réels, et puis c'est très documenté. Vous avez
Pour l'écrire, dans le livre, j'espère qu'on ne le voit pas trop, mais pour l'écrire, j'ai visionné 5 films sur les événements de Gênes, j'ai accumulé une documentation très très abondante, j'ai rencontré des témoins. C'est très très documenté, mais à partir de là, c'est quand même un roman. Voilà. Mais c'est le roman d'éloge à une jeunesse généreuse. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé cet état d'esprit, à part ceux qui évidemment voulaient forcément en découdre, mais en gros, je trouve que c'était bien, c'est très très généreux. Et ça permet de ne pas désespérer d'ailleurs. Quelquefois, on dit la pauvre génération, ils ne s'intéressent plus à rien. Mais là, ce n'était pas le cas. Ils étaient partis là-bas pour défendre tout le monde et pas pour demander des revendications égoïstes.
Très bien. Donc, comme le scorpion, mon frère. Voilà
le titre
roman.
Est emprunté à un vers du poète turc Nazım Hikmet, qui a fait un poème qui s'appelle « La plus drôle des créatures », qui est d'ailleurs un poème qui avait été lu par Yves Montand, et qui dit « Tu es comme le scorpion, mon frère, dans une nuit d'épouvante, tu es comme le poisson dans la mer qui vit sans savoir la mer ». Et en gros, s'il y a tant de misères sur Terre, je ne dirais pas que c'est ta faute, mais tu y es pour beaucoup, mon frère. Voilà. Donc, il y a l'opposition entre ceux qui s'intéressent au sort du monde et ceux qui ne veulent rien voir. Ils sont comme le scorpion qui ne voit rien. Voilà.
D'accord. Donc après, vous êtes initiateur de deux recueils de nouvelles. Donc vous avez rassemblé autour de vous, vous avez eu l'idée, donc vous avez rassemblé autour de vous des écrivains de Toulouse, enfin de la région, pour faire deux recueils de nouvelles en 2001. Un recueil qui s'appelle Toulouse 100% écrit SANG.
Ouais, c'est un roman de nouvelles noires.
Donc ce sont des nouvelles noires écrites donc par plusieurs écrivains toulousains, enfin de la région toulousaine.
Oui.
Et un autre recueil qui s'appelle AZF Toulouse sans dessus dessous. Alors sans écrit de nouveau SANG. Donc là, pareil, des nouvelles bon, qui racontent évidemment AZF et dont les profits, le profit a été remis aux sinistrés. Enfin, ça a été au profit des sinistrés, ce livre, ce recueil de nouvelles.
Voilà, c'est-à-dire que quand AZF a explosé, le jour où AZF a explosé, moi je me trouvais dans un salon du livre à Nancy.
Ah d'accord.
Et j'ai été prévenu par un coup de téléphone de ma femme qui me dit, ça y est, AZF a pété. Et puis j'écoutais la radio de Nancy qu'en fait, Chirac et Jospin étaient en route pour Toulouse, mais qu'il n'y avait que 3 morts. Alors je n'en ai pas cru un mot, je me suis dit que si Chirac et Jospin foncent sur Toulouse, c'est beaucoup plus
grave
que
ça. Oui,
c'est
qu'il y a, c'était
plus important.
Et
j'ai pris un train tout à fait incessant pour arriver à Toulouse, pour essayer de voir où ça en était. Et puis après ça, je suis allé chez un ami qui ne vivait pas très loin d'AZF et dont la maison avait été dévastée.
Oui.
Et c'est là que j'ai dit, on devrait faire un livre. Les écrivains savent faire que ça, en fait, faire écrire. Donc on a écrit un livre, on s'est réunis, on était, je crois, une quinzaine. Et on a écrit des nouvelles autour d'AZF, et donc qui a été édité chez Loubatière. Et les auteurs et l'éditeur ont abandonné tous leurs droits au profit des sinistrés.
Au profit des sinistrés. Donc un très beau geste pour un recueil de nouvelles qui raconte un bien triste événement. Et puis en 2005, nous continuons. Donc 2005, nous avons donc 2 livres dont on va parler de manière plus approfondie après la pause musicale. Donc La Tour Eiffel et Le Cocotier. Mais vous avez écrit aussi « Les États-Unis de mal en pire ». Alors là, pareil, petit jeu de mots, « empire comme un empire », en un seul mot.
Voilà.
Donc, c'est un collectif, en fait, c'est un essai en collaboration avec Daniel Blétrache et Victor Dédage, et sur la politique un peu extérieure des États-Unis. Hein. Retrace un peu...
C'est une nouvelle rupture par rapport à ce que j'ai écrit, parce que là, pour la première fois, ce n'est pas un roman, mais c'est un
ni
c'est
un polar, essai. ni historique, c'est vraiment un essai.
C'est un essai, voilà. Donc, sur la politique guerrière, en fait, des États-Unis à travers le monde. Et je l'ai écrit avec Daniel Blétrache, qui est une sociologue, qui est prof de sociologie à l'université d'Aix-Marseille, et Victor Dedache, qui est un Australien qui vit en France et qui est un spécialiste des pays d'Amérique latine. Il a d'ailleurs été observateur international lors des dernières élections au Nicaragua. Donc c'est un grand spécialiste d'Amérique latine. Et ce livre-là, donc, est un essai, je vous en dis juste 2 mots, a pour thèse principale que nous vivons aujourd'hui dans un monde unipolaire. Les États-Unis sont la plus grande puissance militaire que le monde ait jamais connue. Depuis l'effondrement de l'URSS, il n'y a pas de contre-pouvoir, de contre-puissance. La Chine ne veut pas jouer ce rôle, elle n'a pas les moyens. L'Inde non plus. Et qu'en fait, il y a une montée des résistances qui se fait dans les pays du Sud, et essentiellement dans les pays d'Amérique latine, puisque après Cuba, qui résiste depuis maintenant 45 ans, on voit le Venezuela qui rentre en lice, on voit le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, certainement bientôt le Chili qui va voter à gauche, la Bolivie. Et tous ces pays-là entretiennent entre eux des liens, créent des sortes de marchés communs. On crée d'ailleurs une télévision par satellite qui va concurrencer CNN, qui s'appelle Télésud. Et donc tous ces pays-là, en fait, sont en train de se grouper pour dire à l'Empire, eh bien, ça suffit, vous ne pourrez pas toujours faire la loi, nous ne sommes pas votre arrière-recours. Voilà. D'ailleurs, le président argentin a dit un jour de façon assez nette, le temps où on nous donnait des ordres est fini, nous ne sommes pas des paillassons. Voilà. Donc le thème du livre, c'est ça, c'est qu'il y a une politique des États-Unis extérieure très très agressive, mais que, en fait, ne désespérons pas, ça peut changer. Voilà.
Oui, il faut garder espoir toujours. Donc, c'est Les États-Unis de mal en pire, donc de Maxime Vivas. Et nous nous retrouvons de suite après une petite pause musicale pour parler donc de La Tour Eiffel et Le Cocotier.
C'est vrai, je fume trop. C'est vrai que je bois trop. Avec des gens qui parlent trop. Il est vrai que je traîne un peu trop. C'est vrai, je sors trop. Ce soir, j'ai bu un ou deux verres de trop. Il est vrai que je t'aime un peu trop.
C'est vrai, c'est trop.
Je le reconnais.
C'est vrai, c'est beaucoup trop. Mais c'est vrai, je me sens si seul. Tu me manques tant. J'écoute le souffle du
sens si seul. Que j'écoute everything. Que j'écoute everything. Everything but the girl. C'est vrai que j'en dis trop. C'est vrai que j'en fais trop. C'est vrai, je rêve trop. Il est vrai que je t'aime un peu trop.
C'est vrai, c'est trop.
Je le reconnais.
C'est vrai, c'est beaucoup trop. Mais moi, tu sais que c'est vrai.
Je me sens si seul. Tu me manques tant. Que j'écoute le souffle du vent. Tu me manques tant. Je me sens si seul. Que j'écoute everything. Que j'écoute everything. Everything but the girl. Je me sens si seul. Tu me manques tant. Que j'écoute le souffle du vent. Tu me manques tant, je me sens si seul. Que j'écoute everything. Que j'écoute everything. Everything but the girl.
Page à page, Claire Ambille.
Poupou pitou. Donc vous revoici dans votre émission Page à page où je reçois aujourd'hui Maxime Vivas, dont nous avons fait la liste assez longue de tous ses ouvrages qu'il a écrits. Et donc là, en deuxième partie d'émission, nous allons nous attacher à parler un peu plus longuement de son roman La Tour Eiffel et le cocotier. Enfin, c'est un roman un peu humoristique, on va dire, n'est-ce pas, Maxime Vivas?
Oui, c'est un roman humoristique.
Humoristique, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce que je vous le conseille. Je conseille fortement si vous avez un petit coup de blues, parce qu'il est vraiment, à chaque page, vous souriez, vous riez, c'est vraiment très agréable à lire. Donc alors, La Tour Eiffel et le cocotier, c'est aux éditions du Léopard Masqué, une édition, une maison d'édition qui édite en fait tous les ouvrages humoristiques, hein, on va dire.
Qui a créé une collection de romans humoristiques,
voilà. Voilà, donc c'est une très bonne initiative de cette maison d'édition. Donc comme ça, on peut lire un tas de livres. Donc La Tour Eiffel et le cocotier est inspiré d'un livre, d'une histoire que vous avez lue de Mendoza, en fait, qui raconte l'histoire d'un extraterrestre qui débarque à Barcelone. Alors c'est pas dans votre livre, c'est pas un extraterrestre, c'est simplement un motapien, c'est-à-dire un habitant de l'île de Motapa. Bon, on va dire que Motapa, c'est une île qui n'existe pas, bien sûr, c'est pas la peine de la chercher sur la planisphère, quoi. Mais voilà, donc il débarque à Paris. Et donc il s'ensuit un tas de péripéties et de situations rigolotes, parce que bon, bah, il est complètement décalé par rapport à la vie parisienne, enfin à cette capitale dite civilisée, avec toute la technologie, etc., auquel il ne comprend rien, qu'il ne maîtrise pas du tout. Et donc ce livre est divisé en 7 chapitres, en fait, avec chaque chapitre est en fait un jour de la semaine. Donc on commence le lundi avec son arrivée à Paris, et puis on finit le dimanche, et le dimanche, ben, il retourne sur son île à Motapa. Il aura fait une semaine, en fait, une semaine parisienne, avec un tas d'événements qui lui seront arrivés. Et le prologue aussi plante le décor, bien sûr, hein, où vous expliquez un peu pourquoi il vient à Paris, ce personnage, hein, pourquoi il n'est pas resté sur son île de Motapa. En fait, on apprend qu'il est issu de... Donc, sa maman est motapienne et son papa est parisien. C'est donc, c'est pour ça qu'un jour, il décide d'aller à Paris pour monter en haut de la Tour Eiffel et raconter après à ses amis motapiens ce qu'il a vécu. Hein. Donc, ça, c'est la trame. Donc, après, ça se divise chaque chapitre très divisé avec des horaires, c'est-à-dire que par exemple le lundi, on commence à 9h, arriver à Roissy, etc. Enfin, genre tout est détaillé comme un emploi du temps.
Oui, absolument. Hein,
c'est assez original, moi, je trouve. Hein, et donc, Motapa, l'île de Motapa, ça vous a été inspiré par La Fontaine, vous m'aviez dit, par...
Par une fable de La Fontaine qui s'appelle « Deux vrais amis », je crois, et qui commence ainsi. « Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartient à l'autre. » Donc, Monomotapa, je trouve que c'était un peu long, et je me suis servi de ça. J'ai raccourci pour faire un Motapa.
Et par contre, tous les noms de fleurs, de légumes et de fruits, c'est le fruit, c'est le cas de le dire, de votre imagination.
Voilà, je vous ai inventé tout seul, sans emprunter à La Fontaine ni à Mendoza.
Non, mais je crois que vous n'avez pas besoin. Hein. Je crois que vraiment, vous avez tout plein d'imagination, Maxime Vivas. Alors, je vais lire la quatrième de couverture pour donner une idée à nos auditeurs et auditrices. Donc, la Tour Eiffel et le cocotier. Quand on découvre que Paris est une terre d'asile de fous, Paris la merveilleuse, notre héros Candide, le Huron, l'Indien dans la ville, le Persan, débarque d'une île paradisiaque pour découvrir la Tour Eiffel. Il va se frotter aux modes d'emploi qui font le bonheur de la vie urbaine et civilisée, portable, dépannage en ligne, montage de meubles, aux us et coutumes dans le métro et dans les fast-foods, aux mœurs des chauffeurs de taxi et des gardiens d'immeubles, de banquiers et de masseuses relaxologues aux huiles essentielles, et ne disons rien de son premier contact avec ces drôles de chewing-gums roses à ourlets, vendus dans des distributeurs accolés aux murs d'église, signalés par des croix vertes clignotantes. Alors Maxime Vivas observe ici deux phénomènes universels qu'il décrit en 34 tableaux. Les mœurs des grandes villes d'aujourd'hui sont parfaitement normales pour les citadins. Les notices, instructions, schémas de montage sont assurément limpides pour ceux qui les écrivent. Quant aux autres, ils sont en droit de s'interroger. Et si ce n'était pas ça, le bonheur? Et si d'autres mondes étaient possibles? Et oui, parce que notre pauvre motapien à Paris est bien perdu. D'ailleurs, je vais lire un passage. Nous sommes jeudi aujourd'hui, donc je vais lire un petit passage de jeudi, le début, parce que bon, évidemment, le temps va encore nous manquer, mais je commence donc à lire le jeudi. 9h. Réveil, douche, petit déjeuner au fast-food. Le colosse se tient devant le réceptacle à relief, bras croisés. Régurgitation discrète dans le feuillage d'une plante synthétique à prétention décorative. Sortie sain et sauf. 10h25, j'entre dans un magasin pour vérifier une légende. À ma grande surprise, la vendeuse me confirme qu'il existe bien en France métropolitaine un accessoire vestimentaire appelé maillot de bain. J'en achète plusieurs pour faire rire les motapiens et surtout les motapiennes. À mon retour, sans cette preuve rigolote, mes compatriotes ne croiront jamais qu'il est des contrées reculées où les gens s'habillent pour entrer dans l'eau. 11h. Je fais du lèche-vitrine devant les magasins qui vendent des appareils électroniques modernes qui marchent avec des piles et qui pourraient aussi amuser les motapiens. Mais je n'ose pas entrer, tant je ne comprends rien à ce que je vois. 11h20. Je traînaille un peu en réfléchissant à mon problème majeur, celui de mon estomac qui refuse de s'habituer au changement de nourriture. C'est, paraît-il, le mal coutumier des touristes. J'entre dans une librairie et j'achète un livre de cuisine dans l'espoir de m'alimenter sans trop fréquenter les fast-foods. 11h30. Vautré dans mon canapé, je feuillette mon livre. À la rubrique « Salade composée », je coche les pages de plusieurs recettes exotiques. Midi. Je renonce au repas de midi et je m'endors sur mon lit cloué. Excellente sieste. 16h30. Coup de sonnette. C'est ma vieille voisine qui m'invite à boire un thé. Ses enfants lui ont offert une merveilleuse machine à décoction. Il s'agit d'un instrument de la taille d'un cavaillotiron. Alors, vous expliquez ce que c'est qu'un cavaillotiron. Hein, il y a une petite note. Et agrémenté d'un tableau de bord. J'en observe le fonctionnement. Le simple fait de basculer un petit bouton blanc de off à on provoque l'allumage d'une demi-douzaine d'ampoules minuscules de couleurs rouge, orange, verte, bleue, blanche. Un curseur permet de sélectionner l'opération désirée. Thé, verveine, tilleul, mélisse, menthe, etc. En appuyant plusieurs fois sur un petit bouton bleu, on choisit le nombre de tasses désirées. L'opération ayant réussi, ma voisine utilise un autre bouton, gris, pour sélectionner la taille des tasses, grande, petite, moyenne. Puis elle dévisse un couvercle circulaire placé sur la paroi de l'engin, comme un bouchon d'essence sur les voitures. Elle se munit d'un entonnoir et verse de l'eau déminéralisée jusqu'à ce qu'une sonnerie lui indique que le niveau de tasse est atteint. La pureté de l'eau doit également être choisie, etc., etc., etc. Donc je ne vais pas continuer parce que nous arrivons à la fin de notre émission, Maxime Vivas. Mais votre livre, La Tour Eiffel et le cocotier, donc, est vraiment un régal. Moi, je me suis vraiment régalée à le lire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma fille l'a lu aussi. Donc en fait, il s'adresse également, on peut dire, à des adolescents. Hein, je crois qu'il est tout à fait...
C'est une surprise parce qu'en fait, l'écriture appartient à l'auteur et la lecture au lecteur. Je me suis rendu compte que ce livre que j'avais écrit pour des adultes, en fait, beaucoup de jeunes gens, en fait, de jeunes garçons et filles de 12-13 ans, dans les collèges, le disent.
Oui, c'est une surprise pour moi. Mais écoutez, moi, je trouve que c'est très bien parce qu'il est vraiment... Je le recommande à tous, vraiment. Vous passez un beau moment en le lisant et ça fait également réfléchir. On se demande qui est le plus civilisé de ce mot tapien ou des Parisiens, enfin des personnes dites civilisées en général.
Et puis, on pourrait peut-être ajouter que puisque les fêtes de Noël approchent, faites des économies, n'achetez pas un jeu électronique à votre enfant, offrez-lui la Tour Eiffel et le cocotier.
Voilà, exactement. Moi, je suis tout à fait pour les livres.
C'est pas très long à lire.
Non, en plus, oui, voilà, il est très court et puis il est vraiment très aéré. Enfin, il est très facile à lire, vraiment. Merci, Maxime Vivas, d'être
merci
venu. Et puis, d'autres livres, certainement. Et vous reviendrez me voir
avec
pour
plaisir.
En parler.
Bien sûr.
Merci. À d'ici, à la semaine prochaine.